Bonjour à tous. Voilà, j'ai invité Amandine et Léo à nous rejoindre ce matin parce que le sujet c'est mariage et célibat. Et donc ça sera un message en deux fois parce que le texte fait 40 versets. Alors on va pas faire 40 versets en une fois. Et c'est un sujet qui est aussi sensible, puisque l'on va, dans ce texte, il n'y a pas seulement parlé des personnes qui sont mariées ou des personnes qui sont célibataires, mais on parle aussi des personnes qui sont veufs ou veuves, des personnes qui sont seules, des personnes qui sont séparées aussi de leur conjoint. Et c'est un texte qui est difficile à comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un déjà a déjà entendu un message du dimanche matin sur 1 Corinthiens 7. C'est un texte qui est quand même pas facile à comprendre. Je m'excuse d'avance auprès de Marie-Luce. Par contre, il est très 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 intéressant. Alors ce matin, je vous proposerai une démarche participative avec des questions. Vous allez pouvoir voter pour les réponses. Donc je vais vous donner des petites cartes, et puis du coup vous pourrez montrer les cartes, puis vous pourrez voter comme pour les élections. Donc sur les petites cartes il y a marqué A, B, C ou D, c'est pas très très gros, et puis du coup quand vous allez voter je vais pouvoir scanner les réponses avec mon téléphone, et puis on aura du coup un sondage des réponses possibles, de vos réponses aux questions qui vous seront posées. Donc le texte sera articulé autour de 5 questions, donc vous aurez le droit de voter 5 fois, bien entendu vous pouvez aussi ne pas voter, et ceux qui sont à distance peuvent aussi bien entendu entre eux discuter sur quelle réponse apporter à telle ou telle question. Donc avant de voir les cinq questions qui feront donc les 5 points, on va écouter le texte, et comme c'est un texte qui est assez long, j'ai choisi de l'enregistrer. Alors si tu veux nous passer dans la...
Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme.
1 Corinthiens 7, hein, pour ceux qui sont à distance, si vous n'entendez pas, vous pouvez suivre avec la Bible.
Et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela comme une concession, non comme un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non-croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas. Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. En effet, comment savoir, femme, si tu sauveras ton mari? Ou comment savoir, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais c'est l'observation des commandements de Dieu qui compte. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé en étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ce qui est des vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne ma vie, en homme que le Seigneur, dans sa miséricorde, a rendu fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des calamités présentes. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Dans le cas où tu te marierais, tu ne pécherais pas. Et dans le cas où la Vierge se marierait, elle ne pécherait pas. Mais ces personnes auront des afflictions dans la chair. Or moi, juste de ménagement à votre égard. Voici ce que je dis, frère. Le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent, comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent, comme s'ils ne possédaient pas. Et ceux qui usent du monde, comme s'ils n'en usaient réellement pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et il est partagé. De même, la femme sans mari, comme la Vierge, se soucie des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Si quelqu'un estime déshonorant pour sa fille vierge de dépasser l'âge nubile et qu'il doit en être ainsi, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche pas, qu'on se marie. Mais celui qui tient ferme en lui-même, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui donne sa fille vierge en mariage fait bien, celui qui ne la donne pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Néanmoins, elle sera plus heureuse, à mon avis, si elle demeure comme elle est. Or moi aussi, je pense avoir l'Esprit de Dieu.
Alors, je vous invite à partir sans transition vers une première question. Vous aurez donc la possibilité de voter avec votre carte. Et puis, donc après, je ferai une proposition de réponse. Et donc, la première partie, celle d'aujourd'hui, ça va plutôt concerner ceux qui sont seuls. Et on fera une deuxième partie sur ceux qui sont mariés. Mais on va poser quelques principes qu'on va retrouver. Et donc, c'est important. C'est bien de comprendre les principes généraux, parce que les principes qui sont valables pour les personnes qui sont seules seront aussi valables pour les personnes qui sont mariées. Donc, première question, si tu veux avancer d'une... Donc, c'est assez sensible.
Est-ce qu'on a besoin de stylo pour...
Non, du tout. En fait, il faut juste scroller pour... Encore un peu.
Descendre un peu, c'est ça.
Et du coup, tu as perdu plein d'écran, donc affichage, plein écran. Hop, parfait. Donc la première question, sur les destinataires, dans la liste suivante, à quelle catégorie de personnes Paul ne s'adresse pas? Donc là, vous avez quatre catégories de personnes qui sont mentionnées. Et dans ces quatre catégories de personnes, il y a une catégorie de personnes à laquelle Paul ne s'adresse pas. Est-ce qu'il ne s'adresse pas aux veufs? Est-ce qu'il ne s'adresse pas aux fiancés? Est-ce qu'il ne s'adresse pas aux non-croyants? Ou est-ce qu'il ne s'adresse pas aux personnes séparées? Et donc, si vous pensez qu'il ne s'adresse pas aux veufs, du coup, il faut montrer le carton avec le A qui est ici. Et si vous pensez qu'il ne s'adresse pas aux fiancés, vous montrez le B. Et puis du coup, moi, je vais pouvoir flasher pour savoir qu'est-ce que chacun pense.
Et tu arrives à voir ça?
Oui, j'y arrive. Oui. Pas de souci. Ah, il faut mettre que je puisse voir, voilà, comme ça. Merci.
Tiens, quatre côtés.
Alors, j'ai quelques problèmes de connexion, mais on peut déjà avoir un premier aperçu. Alors, on a 6 personnes qui pensent que Paul ne s'adresse pas aux non-croyants, et 3 personnes qui pensent qu'il ne s'adresse pas aux fiancés. Alors, on va voir la diapo de synthèse suivante, qui fait la réponse. Non, mais là, tu scrollais un petit peu trop fort. Voilà. on l'a eu. Donc, si vous regardez attentivement le texte à la maison, vous verrez qu'il y a 14 situations différentes qui sont évoquées dans ce texte. Et donc, Paul parle à ceux qui sont mariés, à ceux qui ne sont pas mariés, à ceux qui sont fiancés, à ceux qui ne sont pas fiancés, à ceux qui sont mariés avec une femme non-croyante, avec ceux qui sont mariés avec un mari croyant, à ceux qui sont circoncis, à ceux qui ne sont pas circoncis, à ceux qui sont esclaves, à ceux qui sont hommes libres. Donc il y a toutes 14 situations différentes qui sont évoquées. Et comme on peut être à la fois un homme avec une femme non-croyant, libre et circoncis, du coup, si on multiplie les possibilités, on voit qu'il y a une... En fait, c'est très, 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 très vaste, très, très... Beaucoup de situations, mais par contre, Paul parle à des chrétiens qui sont engagés et qui souhaitent plaire au Seigneur. Paul ne parle pas à des non-chrétiens, il parle à des personnes qui aiment le Seigneur, qui veulent vivre pour le Seigneur. Alors si Paul s'adressait à des chrétiens endormis ou mondains, il ne tiendrait pas le même discours. Et Jésus fait de même dans la parabole du cep ou du sarment. Ben, il dit, ben, quant à ceux qui portent du fruit, ben, le vigneron va s'en occuper, ils vont porter encore plus de fruits. Puis ceux qui ne portent pas de fruits, ben, ils vont être coupés. Alors, cette diversité de situations, on va déjà prendre pour nous un premier enseignement, c'est-à-dire que quelle que soit ta situation, il est possible de vivre pour le Seigneur. Alors, il y a parfois des situations difficiles, hein, on peut penser par exemple à ceux qui sont esclaves, pas idéal. Et Paul dit, ben, tu peux quand même vivre pour le Seigneur. Dans tous les cas, dans ta situation aujourd'hui, telle que tu es, des fois on se dit, ah, si j'étais marié, je pourrais sans doute mieux servir le Seigneur. Puis il y en a qui disent des fois, ben, si j'étais pas marié, alors là, je servirais beaucoup mieux le Seigneur. Et en fait, le service pour le Seigneur, c'est maintenant, c'est dans la situation que tu vis, bien entendu, les contraintes ne seront pas les mêmes, mais plaire au Seigneur, c'est possible maintenant. Ça, c'est vraiment l'idée force qu'il faut retenir de ce premier point. Et donc, sans transition, nous passons à la deuxième question. Question un peu plus compliquée. Je s'en suis vraiment désolé. Ah, il faut toujours scroller, voilà. Paul va parfois donner son avis, et parfois il va parler avec toute l'autorité apostolique. Hein, on le voit dire par exemple, je leur envoie non pas moi mais le Seigneur, au verset 12, non pas moi mais le Seigneur, au verset 17, j'en ordonne dans toutes les assemblées. Donc là, on voit qu'il s'exprime de façon catégorique, on pourrait dire comme ça. Et puis, dans d'autres versets, il dit « Je dis ceci, non comme un commandement. » Ou verset 25, « Je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne mon opinion. » Au verset 26, il dit « J'estime. » Au verset 40, il dit « Mon avis. » Donc la deuxième question va être « Lorsque Paul donne son avis, ce qu'il dit, ça a la même autorité que la parole de Dieu, ça n'a pas la même autorité que la parole de Dieu, ou je ne sais pas. » Bon, à chaque fois, on pourrait faire une soirée de ta question, avec la suivante. Allez. On a 7 qui pensent que ça a la même autorité que la parole de Dieu et 6 qui pensent que ça n'a pas la même autorité que la parole de Dieu. Aïe, 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 aïe. Comment on va faire?
Ce qui est bien, c'est qu'au moins on sait. On peut se tromper, mais on croit qu'on sait.
Voilà.
Personne n'est sans avis.
Alors, j'invite Karine à avancer. Voilà. Donc, nous sommes dans ce texte en présence d'un texte argumentatif avec d'un côté des injonctions précises valables pour les hommes de tous les lieux, de tous les temps. Alors dans ces injonctions précises que j'ai symbolisées avec une flèche, c'est se marier dans l'attention mutuelle dans le couple, la fidélité dans le mariage ou le choix d'un conjoint dans le Seigneur. Et d'un autre côté, Paul va donner un avis personnel sur le choix de rester célibataire, en détaillant les contraintes liées à une vie de couple, en mettant en avant les avantages du célibat, en prenant appui sur son exemple personnel et en raison du contexte de vie des Corinthiens. Donc là, on est dans des possibilités. Et donc ça laisse le choix aux personnes, parce que celui qui se marie ne pêche pas, parce que celui qui est marié peut aussi vivre sa passion, pour le Seigneur, parce que le célibat est présenté comme un don, parce que tout le monde n'a pas la même résistance et parce que tout est affaire de conviction personnelle. Donc d'un côté, on a des cadres précis, d'un autre côté, on est dans le faire bien, faire mieux, et on est aussi dans le tenir compte, dans le évaluer, à côté de l'obéir. Nous sommes donc en présence d'un texte très moderne dans son esprit. Dieu respecte les autorités, le mari, la femme, le couple, puisqu'il établit qu'on ne peut pas demander à un mari de ne pas s'occuper de sa femme ou à une femme de ne pas s'occuper de son mari pour servir le Seigneur. Mais il établit aussi des limites personnelles, en particulier dans le choix du célibat, mais on verrait aussi qu'il y a aussi des limites quand on est marié, la capacité de tenir ferme, la prise en compte aussi de l'autre. Il en résulte qu'à côté d'instructions claires, obéir, en dehors desquelles un chrétien engagé pourra difficilement vivre d'une façon agréable au Seigneur, il y a des choix qui sont laissés à l'appréciation de la personne. On est dans le faire bien ou le faire mieux. Les différentes options sont détaillées de façon non commerciale, c'est-à-dire en présentant les avantages, les inconvénients de chaque situation, de façon à laisser le chrétien libre d'évaluer en conscience et en connaissance de cause son choix. La question 3 va sans doute susciter pas mal. Ah, pour moi, donc, en fait, si vous regardez le cercle qui est entouré de blanc, en fait, c'est la pensée du Seigneur, mais la pensée du Seigneur, elle n'est pas unique, elle est parfois conditionnelle. C'est-à-dire que dans telle situation, il vaut mieux faire ainsi, et dans telle autre situation, il vaut mieux faire ainsi. Et donc, elle n'est pas normative, mais c'est quand même la pensée du Seigneur. Donc c'est un texte qui est, pour moi, c'est un texte qui s'est inspiré. C'est la, pour moi, la bonne réponse serait à la même autorité que la parole de Dieu, mais cette autorité, elle est relative. Elle est relative en fonction de la personne, de ce qu'il peut supporter, de sa situation et du contexte extérieur. Voilà. Donc, nous a, en fait, je cavale un petit peu parce que je ne voudrais pas trop être long.
Mais si on n'a pas les réponses.
Il faut accepter aussi que le message, c'est aussi pour vous permettre de commencer, vous, une réflexion. Alors, les personnes mariées connaîtront des souffrances, nous dit Paul. Donc, nous parlons en point 3 de la souffrance des personnes mariées. Donc, de quelle souffrance Paul parle-t-il ? Alors, je vous propose trois possibilités et un je ne sais pas.
On peut tourner.
Quand Paul dit que les personnes mariées connaîtront des souffrances, est-ce que petit grand A, est-ce qu'il dit qu'il parle que celui qui est marié souffre parce qu'il a moins de temps pour lui ? Le B, celui qui est marié souffre parce que son conjoint est parfois pénible.
Il fait que parfois.
Ou C, celui qui est marié a moins de disponibilité souffre parce qu'il a moins de disponibilité pour servir le Seigneur. Ou alors, est-ce que vous ne savez pas ? Voilà, donc je vous invite à voter.
À voter.
J'espère que les gens qui sont en visio en profitent pour discuter entre eux des questions. Donc là, on a une grosse majorité des réponses. C'est, vous avez choisi le C, celui qui est marié a moins de disponibilité pour servir le Seigneur. Donc je vais détailler chaque réponse. Comme ça. Alors, pour. Pas tout de suite. Alors, pour l'item A, donc cette réponse n'est pas fausse, mais elle est partielle. Paul établit de façon certaine que le conjoint doit se consacrer à l'autre. Verset 3, verset 10, verset 33 et verset 34. Mais lorsque Paul écrit que celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, cherchant à plaire à son mari, ce n'est pas pour se lamenter sur sa condition, c'est-à-dire qu'elle a, comme elle s'occupe tellement de son mari qu'elle n'a plus de temps pour elle, mais plutôt pour opposer sa situation avec la liberté que le célibataire a quant à la gestion de son temps. Puisqu'il n'est pas tenu de chercher à plaire à son conjoint, parce qu'il n'en a pas, il peut consacrer toute son énergie au service du Seigneur. Donc la réponse B, ce n'est pas la bonne réponse, même s'il est sage d'aller au mariage en sachant que ce que cela implique, la souffrance dont Paul parle dans ce texte n'est pas liée à une difficulté de relation avec l'autre, parce qu'il a mauvais caractère, mais parce qu'à cause de l'obligation d'attention qu'on a envers son conjoint, la personne mariée ne peut pas servir le Seigneur avec autant de disponibilité qu'elle souhaiterait. Et donc la réponse C, c'est la bonne réponse. La personne mariée peut être moins sainte de corps et d'esprit, c'est-à-dire moins consacrée toute son énergie pour s'inquiéter des choses du Seigneur. Donc pour expliquer ces réponses-là, je vous ai fait une diapo sur le contexte de l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, c'est une église où les chrétiens sont chauds bouillants pour le service du Seigneur. En effet, si on regarde le contexte, on voit que c'est une église qui est influencée par la puissance de l'esprit. Quand Paul a prêché à Corinthe, il dit qu'il a prêché avec une démonstration d'esprit et de puissance. Il faut entendre par là que Paul a utilisé des miracles pour appuyer sa prédication. En 1 Corinthiens 1, verset 7, il est écrit « Ne vous manque aucun don ». Et dans le contexte d'un Corinthien, il s'agit de dons spirituels. Et puis, cette forte puissance, cette forte présence du Seigneur, elle s'explique aussi par le fait, elle a aussi, on va dire, un pendant, c'est-à-dire que quand les chrétiens n'agissaient pas de façon correcte, il y avait un jugement qui était immédiat. Et par exemple, pour la Sainte Cène, c'est dans ce contexte qu'il faut prendre le texte de la Sainte Cène, où Paul dit, parce que vous ne comprenez pas comment prendre la Sainte Cène correctement, eh bien, il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et même un grand nombre sont morts. Un grand nombre. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans des temps, il y a un problème avec la visio.
Oui.
Je vous laisse essayer de régler, au moins déconnecter et reconnecter. Je vais devoir avancer quand même. Donc, des fois, on cherche, on dit est-ce qu'on voudrait avoir plus de dons spirituels, mais on voit que la puissance de l'esprit, quand elle est présente dans une église, c'est à deux tranchants. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une dynamique, on va dire, c'est un petit peu comme si on recevait de la super vitamine. Je pense qu'il faudrait connecter, déconnecter, Marc.
Oui, le lien, il est où ? Sur le bureau ?
Donc on a pour ainsi dire la dopamine qui nous arrive. On a une grosse motivation, mais il y a aussi la sanctification. Le Dieu, quand il se révèle, c'est un Dieu qui est saint. Et souvent on voudrait prendre les dons puis pas prendre la sainteté. En fait, les deux vont ensemble. Et l'exemple des Corinthiens nous montre que l'Église qui est qui a la plus de dons spirituels n'est pas vraiment la plus sainte. Les Corinthiens étaient marqués par une grande passion pour le Seigneur. En 1 Corinthiens 1, verset 2, c'est marqué « aux sanctifiés en Jésus-Christ appelés saints », c'est-à-dire ceux qui sont mis à part, c'est-à-dire qu'ils avaient intégré que quand ils devenaient chrétiens, ce n'était pas Dieu qui se mettait au service de eux, mais c'était eux qui se mettaient à leur service. C'était eux qui se mettaient au service de Dieu. Donc ils avaient compris ce que c'était la sanctification, et il y avait des temps de culte personnel et collectif très très forts. Puisque si on prend 1 Corinthiens 14 sur les dons, on voit que ça parlait en langue de partout, que ça faisait de partout, et qu'il y avait donc beaucoup de gens en culte, avec beaucoup de choses qui se passaient, et donc cela pouvait encourager les gens à vouloir toujours plus d'églises, et on se rend bien entendu compte que dans notre vie actuelle, la situation de l'église en France, c'est quand même pas tout à fait la même situation. Est-ce que c'est résolu pour le... Je vais me connecter avec mon téléphone en attendant.
Ok, un problème.
Après, comme... Voilà, j'ai pris mon téléphone en attendant qu'on trouve le problème de connexion. Et du coup, on a répondu à la question, je vais avancer un peu plus loin. Je suis désolé pour le contretemps technique. Donc, on a une église influencée par la puissance de l'esprit, avec une grande passion pour le Seigneur, les temps de persécution, qui font aussi conseiller Paul que dans une situation de persécution, la situation du célibataire est plus avantageuse que celle qui a une famille à charge à cause des pressions de la société qui va avoir lieu sur l'église de Corinthe. Donc, tout ce contexte permet de comprendre pourquoi Paul recommande le célibat. Et on va avancer d'une image. Alors, donc, Paul, dans cette partie-là du texte, il fait ce qu'on appelle du benchmarking, c'est-à-dire qu'il va regarder du côté des concurrents quels sont les points faibles des concurrents. Or, les concurrents aux célibataires, c'est les gens qui sont mariés. Donc, dans une première partie, il va parler à ceux qui sont mariés, à ceux qui sont fiancés, à ceux qui sont veufs. Et quand il parle des célibataires, il va mettre en avant les inconvénients du mariage et les avantages du célibat. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce type de texte-là. Et il va dire « mais le célibat n'est pas non plus donné à tout le monde, c'est un don ». Et il y a aussi des contraintes, donc il parle des pressions aussi qui sont dans la vie de ceux qui sont seuls. Et donc, normalement, dans le benchmarking, on va relever les points faibles des autres, et puis on ne va pas forcément être juste sur les avantages qu'on peut avoir, mais effectivement, il y a... Ah. Voilà. C'est revenu. Et on va donc avoir... on va pas forcément montrer les avantages aussi du mariage, mais Paul est assez équilibré, il va aussi montrer les inconvénients du célibat. Maintenant, nous allons passer à une question passionnante, la question 4, sur le verset... alors là, il nous faut le texte, par contre, pour ne pas dire bêtise sur le verset. C'est sur le verset 36, voilà. Donc, nous sommes en présence d'un texte qui a été traduit très, très différemment selon les Bibles. Et là, on est dans des Bibles sérieuses. C'est-à-dire que la colombe, au verset 36, elle dit « Si quelqu'un pense qu'il ne soit pas honorable que sa fille passe la fleur de l'âge, qu'il se marie. » Donc la version de la colombe évalue que c'est le père qui regarde si sa fille se marie ou pas, et puis c'est lui qui va estimer que si sa fille, c'est quand même, voilà, vu l'âge qu'elle a, ce serait quand même temps qu'elle se marie, il faut qu'elle se marie, parce que sinon ça serait déshonorant. Mais la version Darby dit si quelqu'un estime qu'il agit d'une manière inconvenante à l'égard de sa virginité. Donc en traduisant virginie par sa virginité, on pourrait penser que Darby a traduit ce texte en disant « J'évalue ma situation par rapport à moi-même. Est-ce que je reste célibataire ou est-ce que je me marie ?» Puis il regarde sa propre virginité, sa propre vie. Et au verset 36, toujours dans verset 36, la version seconde 21, il est écrit « Si quelqu'un estime agir de façon inconvenante envers sa fiancée. » Donc, on voit bien, si on peut avancer d'une image, quelqu'un, Paul parle à quelqu'un qui estime agir de façon déshonorante dans le choix et de se marier si on est célibataire, mais qu'on ne veut pas être déshonorant. Mais pas être déshonorant pour qui? Est-ce que Paul parle à un fiancé au sujet de lui-même? Est-ce que Paul parle à un père au sujet de sa fille? Est-ce que Paul parle à un fiancé au sujet de sa fiancée? Et comme c'est un texte un peu compliqué, ne soyez pas gênés de dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas, ce n'est pas forcément très, très facile d'être clair dans ces textes-là. Donc on comprend le principe général. Paul, il parle à des célibataires, il a présenté les avantages du célibat, et il dit « mais si cependant tu estimes que c'est déshonorant, de ne pas te marier, marie-toi. » Mais ce n'est pas déshonorant pour qui? Pour ma fille, en tant que père, pour moi, en tant que fiancé, ou pour ma fiancée? Zatis vous questionne. Et vous voyez que les traducteurs ont eu quand même bien des soucis pour traduire ce texte. Ah, comment est-ce que vous comprenez les choses? On va arriver avec ce point-là à un principe très intéressant qui va être éclairant, ne vous inquiétez pas. Donc la plupart des gens pensent que Paul parle à un père au sujet de sa fille. Donc je suis très honoré. j'avoue que cette option-là ne serait pas sans me déplaire. heureusement ou malheureusement, je ne le dirai pas. Ce n'est pour moi pas le sens de ce texte. Je vais donc expliquer Est-ce que tu peux avancer d'une image? Je ne suis pas sûr de... Ouais. Alors, les Corinthiens se demandent si le célibat est préférable au mariage. Dans le contexte culturel et social qui est le leur, Paul recommande le célibat et parle des versets 36 à 38 à un fiancé, pour moi, qui doit se positionner par rapport à sa fiancée. Est-ce que je fais bien d'aller au mariage? Donc, on est dans ce contexte que j'ai précisé, où les chrétiens de Corinthe sont chauds bouillants pour le Seigneur, les dons spirituels sont partout, il y a plein de monde occulte, il se passe plein de choses, ils ont envie que d'une chose, c'est de se retrouver pour louer le Seigneur et exercer les dons, et le fait d'être marié est un frein, semble un frein en tout cas, à cette disponibilité qu'il pourrait avoir s'il n'était pas marié. Donc du coup, le fiancé, qui vit vraiment une passion forte avec le Seigneur, se pose la question, ne serait-il pas préférable de rester célibataire? Quelle est la pensée du Seigneur? Donc là, dans les différentes catégories de personnes, on est bien sur si tu es fiancé. Eh bien, le cadre général, Léo a soupiré, c'est reste fiancé. Le cadre général, c'est que chacun reste dans la position dans laquelle le Seigneur l'a trouvé quand il l'a appelé. Reste fiancé. Mais pas trop longtemps quand même. Il faut quand même aller au mariage un jour ou l'autre. Je ne veux pas dire par là, la pensée de Paul n'est pas de rester fiancé pendant 20 ans. Hein. Mais il veut dire par là, ne quitte pas ta fiancée. Mais tu peux aussi avoir la liberté de renoncer à aller au mariage pour vivre ta passion pour le Seigneur, pour servir le Seigneur. Cependant, il faut prendre en compte que quand on est fiancé, on est deux, et que si le fiancé a comme conviction dans son cœur qu'il faut qu'il n'aille pas au mariage pour pouvoir se consacrer pleinement au Seigneur, cela va avoir une influence aussi sur la vie du fiancé B. Ça paraît évident. Hein. Ceux qui sont en couple et qui ne sont pas mariés, qui voudraient se marier, ben, ont le même problème ou même souci par rapport... Par rapport aux compagnons, peut-être que l'un voudrait se marier, l'autre ne veut pas. Puis pour se marier, il faut être deux. Donc voilà, comment on fait? Donc, Paul est en train de dire que si le fait de rompre tes fiançailles, ça amène une catastrophe dans la vie de ta fiancée, parce qu'elle a passé la fleur de l'âge, c'est-à-dire qu'elle n'a pas retrouvé à se marier, puis qu'elle, elle aurait bien voulu se marier et puis vivre dans le cadre, tout en servant le Seigneur, mais dans le cadre du mariage, alors il est juste de renoncer à ton vœu de célibat pour le Seigneur pour pouvoir te marier quand même parce que ça serait inconvenant pour l'autre. Et donc là, on a une pensée qui est extrêmement moderne, extrêmement forte et qu'on va retrouver aussi pour le couple, c'est-à-dire que de la même manière que Dieu respecte les autorités, qu'il ne va pas demander à un conjoint de sacrifier sa vie de couple pour servir du Seigneur, de la même manière, il ne va pas demander à un fiancé de sacrifier la virginité et l'honneur de sa fiancée pour le servir, pour servir le Seigneur. C'est comme ça que je comprends ce texte. Mais il va aussi dire, il y a la prise en compte de l'autre, mais aussi la prise en compte de soi. C'est-à-dire que, certes, d'accord, tu es à deux doigts de te marier, tu renonces parce que tu veux rester célibataire pour les avantages du célibat qu'on a défini précédemment, mais sache-le, que prends en compte l'autre et puis sois bien conscient de ce que cela implique pour toi, pour toi-même. Et ensuite, tu peux décider en conscience. Donc, ce texte, pour moi, ne dit pas que c'est le père qui marie sa fille et que c'est lui qui va décider s'il va laisser sa fille ou pas, mais ça concerne vraiment un fiancé qui se pose la question de savoir s'il vaut au mariage. Et Paul donne cet enseignement en disant, écoute, il y a ta conviction, mais il y a aussi un autre à côté, prends-le en compte dans ton choix. Dernière question, vous comprenez pourquoi j'ai un petit peu cavalé, c'est parce que c'est quand même, tout ça prend quand même un peu de temps. La question par rapport à être, je lis le texte pour vous remettre la question dans le contexte. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Donc la question nous dit, c'est une question qui est facile pour la dernière, celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur. Est-ce que ce que Paul dit, c'est une vérité générale, dans ce que vous pouvez observer autour de vous, vous voyez que dans votre église, dans votre entourage, tous ceux qui ne sont pas mariés, effectivement, ils se préoccupent des affaires du Seigneur. Est-ce que ce que Paul dit est faux ? Le fait d'être marié ou pas marié, dans ce que vous avez pu observer, hein, dans votre vie de tous les jours, c'est pas ça qui va vraiment faire que la personne elle va s'occuper plus ou moins des affaires du Seigneur. Ou est-ce que ce que Paul dit dépend des choix de la personne ? C'est-à-dire que finalement, quand on n'est pas marié, on peut orienter sa vie d'une façon ou d'une autre, mais que ce n'est pas automatique, parce qu'on n'est pas marié, ben, du coup, on va consacrer toute sa vie pour le Seigneur. Est-ce que, donc, on a ces trois possibilités, puis on a aussi la possibilité de dire « je ne sais pas ». Donc, celui qui n'est pas marié se préoccupe de l'affaire du Seigneur. Ah bon, c'est toujours vrai, cette histoire ? Ou c'est relatif, ou c'est faux ? Toujours vrai, toujours faux, relatif. Ou « je ne sais pas ». Alors on a du 100%, tout le monde a répondu que ce que Paul dit dépend des choix de la personne. Et Marc, si tu veux avancer une page encore. Et donc là on est vraiment on va déjà valider cette réponse. Au verset 39, Paul dit, à mon avis, elle, c'est-à-dire la personne qui est veuve, et plus heureuse si elle demeure ainsi, c'est-à-dire veuve. Et dans 1 Timothée 5, verset 14, quand Paul parle des veuves, il dit « Je veux donc que les jeunes, les veuves, se marient, qu'elles aient des enfants et qu'elles dirigent bien leur maison. » Donc on voit que en 1 Corinthiens, les veuves, elles doivent, Paul leur conseille de rester seules, et en 1 Timothée, il conseille aux veuves de se marier. Donc il faut savoir un peu... remarque, on peut prendre le verset qu'on veut, comme ça, avec tous les cas, on ajuste. Mais en fait, si on approfondit le contexte, c'est que dans 1 Corinthiens, on a affaire à des chrétiens qui sont passionnés pour le Seigneur et qui veulent passer tout leur temps pour servir le Seigneur. Et Paul leur dit, écoute, dans ce cadre-là, le célibat, c'est mieux parce que tu auras moins de contraintes. Par contre, dans 1 Timothée 5, c'est les gens qui usent de leur liberté et de l'absence de contraintes qu'elles ont à ne plus avoir de mari, pour carpe diem open bar tous les soirs. Donc du coup, dans ces cas-là, Paul dit, puisque tu passes ta vie à une vie de débauche, c'est presque mieux que tu te maries. Sauf que moi, on me demanderait mon avis, je dirais, non, la femme qui seule vit une vie de débauche, je ne vais pas la mettre avec un mari, parce que ça va mettre le bazar dans le couple. Donc là, je n'ai pas tout à fait le même point de vue que Paul, mais c'est mon avis personnel. C'est-à-dire que si on dysfonctionne quand on est seul, ce n'est pas le fait de se marier qui va nous guérir. Je pense que ce que Paul veut, c'est que la personne qui est dans l'institution d'un Timothée 5, c'est-à-dire qui aurait la possibilité de servir le Seigneur sans contrainte, puisqu'elle n'a plus son mari, comprenne ce que c'est la sanctification et revienne à une vie sainte, pour être sainte de corps et d'esprit. Donc on arrive à la diapo de synthèse résumer un petit peu tout ce qu'on a vu. Donc en fait, le but de ce texte, ce n'est pas de savoir avec qui je me marie ou si je me marie ou pas. Mais le but profond de ce texte, qui sous-tend ce texte, et sans lequel on ne comprend rien ce texte, si on n'a pas ça devant les yeux, c'est ce verset qui dit pour être saint de corps et d'esprit pour le Seigneur. C'est-à-dire que ce texte, il a pour but de conseiller, d'encourager les chrétiens à être à fond pour le Seigneur, à vivre à fond leur passion pour le Seigneur. Et donc, ce matin, on a vu comment vivre à fond la passion pour le Seigneur si on est célibataire, et la prochaine fois, on verra comment vivre à fond sa passion pour le Seigneur si on est marié. Et on peut voir qu'il apparaît clairement dans ce texte, et vous l'avez relevé, que celui qui est célibataire a plus de capacité par rapport à son corps, c'est-à-dire qu'il a moins de contraintes par rapport à la vie extérieure, puisqu'il n'est pas tenu de vivre pour son conjoint. Nous verrons, dans le cas de la vie de couple, qu'il peut y avoir aussi des avenants à cette règle générale. Mais pour l'instant, pour le sujet aujourd'hui, c'est pour les célibataires. Mais que de toute façon, on peut disposer de tout le temps qu'on veut, même par exemple, si demain le Seigneur vous transforme, vous n'avez plus besoin de dormir, vous gagnez 7 heures par jour, vous avez plus de capacité par rapport à votre corps, vous avez moins de contraintes, où le Seigneur fait que, comme Philippe l'évangéliste, vous déplacez comme ça, tac, 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 transporté par l'esprit, vous gagnez du temps, dans l'acte 8, hein, tac, vous n'avez plus de contraintes. Si vous n'avez pas de passion pour le Seigneur, ça ne vous servira à rien. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, ça ne va rien avancer de plus, que vous ayez plus de temps ou moins de temps, un mari ou pas un mari, tout ça, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, il n'y a pas de passion. Et donc, la question que pose ce texte, c'est quelle est ma passion pour le Seigneur ? Et du moment qu'il y a de la passion pour le Seigneur, alors je suis pas à zéro, comme le montre l'aiguille, mais je suis dans mon plein régime. Il faut savoir, par rapport à sa vie, être ni en sur-régime, c'est-à-dire être en sur-régime, ben, on a vu dans le cas d'un fiancé, si c'est inconvenant pour sa fiancée, ben, lui vivra pleinement sa passion pour le Seigneur, mais l'autre dépérira à côté. Du coup, c'est gênant. C'est pas dans la pensée du Seigneur. Être en sur-régime pour le Seigneur, c'est trop en faire pour l'Église et puis pas assez pour sa famille. Ça, ce n'est pas non plus la pensée du Seigneur. Donc, être en sur-régime, mais on a aussi être en sous-régime. C'est-à-dire que dans le corps que j'ai aujourd'hui, on a tous des limites. Il y en a qui ont des petites limites, il y en a qui ont des grandes limites. Mais on peut tous être à fond de nos capacités ou pas. Et la capacité de l'un va être différente de la capacité de l'autre selon les 14 situations qu'on a vues au départ. Et le Seigneur, il va s'adapter à notre situation. On ne va pas demander plus qu'on peut ou moins qu'on peut. Mais par contre, la pensée du Seigneur, c'est où est-ce que j'en suis par rapport à ma passion pour le Seigneur ? Est-ce que j'ai envie de consacrer ma vie à le servir ? Et à ce moment-là, ben, du coup, je vais faire des choix. Et aussi, dans une vie de couple, on verra la prochaine fois, qu'on peut faire des choix qui vont favoriser ou pas la vie de service. Donc, on conclut avec un verset tiré de l'Épître du livre des Actes, pour replacer ça dans le contexte du corps. Ah, pas ? Si. Acte 21, verset 9, je ne sais pas si vous aviez remarqué, qui a été écrit, Luc écrit, « Étant entré dans la maison de Philippe, le même qui était transporté là, quand il faisait ses services pour le Seigneur, l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. » Et donc, on a dans ce texte une mention quatre célibataires, quatre personnes seules, qui auraient pu sans doute se marier, mais qui avaient fait le choix de ne pas se marier pour pouvoir servir pleinement dans l'Église, et on voit qu'elles avaient un ministère qui était reconnu, puisqu'elles prophétisaient. Et donc, ça c'est important, dans les églises locales, de prendre en compte ceux qui sacrifient quelque chose pour le service, ne serait-ce qu'en le relevant. Parce que ce n'est pas anodin, au lieu d'aller à la pêche, ben, de venir le matin, ou au lieu de faire la grasse mat, de venir le matin une heure plus tôt pour préparer la salle, par exemple. Ce n'est pas anodin. Ça témoigne de l'esprit de service et c'est important que dans nos églises cela soit relevé. Alors valoriser le service de l'autre, c'est tout simple, c'est simplement venir au culte, parce que c'est pas compliqué, mais la personne qui prépare un message, la personne qui a préparé la présidence, la personne qui a nettoyé, que vous soyez là ou pas, il aura fait quand même, il sera sans doute encouragé s'il voit les frères et les sœurs présents pour valoriser son service. Donc il y a une responsabilité de l'Église locale de faire corps autour de ceux et de celles qui sacrifient quelque chose pour le service, et en particulier si ce sont des célibataires, eh bien il y a du coup une vie de famille qui est moins développée, il y a des inconvénients au célibat, peut-être qu'il nous faut être conscients de la souffrance des célibataires aussi, la contrepartie, on va dire, et d'essayer en tant qu'Église d'être accueillant, de faire attention, et puis de valoriser aussi ses frères et sœurs qui sont seuls et qui font le choix d'utiliser leur énergie pour servir le Seigneur. Et puis, au-delà de la simple vue humaine, de ce que l'un et l'autre peuvent voir sur la vie et la consécration de l'un ou de l'autre, 1 Corinthiens 15, verset 58, vous remarquez que j'ai volontairement choisi un texte qui était dans l'épître aux Corinthiens, et bien, il nous dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, c'est valable aussi pour les sœurs, bien sûr, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » C'est-à-dire que l'essence même de la consécration pour le Seigneur, c'est la vision à plus long terme que ce que nous faisons, si nous le faisons de la bonne façon, dans la communion fraternelle et avec la consécration, ne sera pas vain par le Seigneur. Et donc il vaut la peine de servir le Seigneur et d'avoir de la passion pour lui. Que le Seigneur vous dise sa parole. Amen.